Paso doble.
Paso doble.
Jeudi, polar.
Bonjour Antoine Bello.
Bonjour Toufik.
Vous êtes franco-américain, on peut le dire.
Je suis franco-américain de passeport et j'habite aux États-Unis.
Mais vous êtes né aux États-Unis.
Je suis né aux États-Unis, mais de parents français et élevé dans la culture française.
Ses romans en français.
Ma langue, comme disait Camus, ma patrie, c'est la langue française.
Un polar qui se déroule de nos jours dans la Silicon Valley, avec dans le rôle principal Frank Logan, policier chargé d'une affaire particulière. Retrouver Ada. Ada, c'est le titre de votre dernier roman. Mais Ada, il faut le dire tout de suite, c'est pas une personne, c'est une intelligence artificielle conçue pour écrire des romans à succès.
Des romans sentimentaux, des romans à l'eau de rose. C'est-à-dire que les concepteurs d'Ada se sont dit, on va commencer par le genre peut-être le plus facile à mettre en algorithme, le roman à l'eau de rose.
C'est quoi pour vous? C'est le cauchemar qu'un jour la machine remplace l'écrivain, son inspiration, sa subjectivité?
Je crois que c'est à la fois un cauchemar et une fascination. On est obligé de se poser la question. Moi, je sais que je me pose régulièrement cette question quand je suis devant mon ordinateur, les doigts sur le clavier, les mots viennent et je me demande toujours, mais d'où viennent ces mots? Ce processus de la création, parce que c'est aussi un livre qui parle finalement un peu du processus de la création, c'est ce que j'essaye d'explorer. On se croit, on dit traditionnellement, les intelligences artificielles sont de plus en plus comme des hommes. Et en fait, une des choses que comprend Frank Logan dans son enquête, c'est que les hommes sont déjà un petit peu comme des intelligences artificielles. Dans notre façon de réfléchir, dans notre façon de comparer des scénarios, dans notre façon d'aller chercher les mots, lui, il se trouve qu'en marge de sa carrière policière, il compose des haïkus, il se veut, se croit un petit peu poète. Et donc, il est rompu à cet exercice de prendre des mots, d'essayer différentes combinaisons, de voir ce qui marche le mieux. Et c'est finalement pas très différent de ce que fait Ada. Simplement, Ada le fait avec des ressources colossales. On lui a fait lire 80 000 romans à l'eau de rose. Elle le fait avec une puissance calculatoire absolument démentielle.
Et avec le sens de la réplique, parce qu'elle a ce sens, Ada.
Ah, elle a le sens de la réplique. D'abord, c'est la première chose qui le frappe quand il parle avec elle, c'est qu'elle répond toujours un centième de seconde après qu'il ait fini sa phrase. C'est-à-dire que nous, le temps qu'on prend entre deux phrases, pour elle, c'est absolument dérisoire comme opération de calcul. Donc elle répond tout de suite. Et il y a en effet quelque chose qui est frappant, un peu amusant avec Ada, c'est que elle a des petits bugs. C'est une AI apprenante, c'est-à-dire que elle s'est configurée un petit peu toute seule, nourrie de ses expériences et notamment nourrie des livres qu'on lui a fait lire. Et donc, elle a développé certaines petites idiosyncrasies qu'on a du mal à s'expliquer. Par exemple, elle a un sens de l'humour très scatologique.
Ce qui pose problème.
Ce qui pose un petit peu problème, surtout quand il s'agit d'écrire un roman à l'eau de rose. Donc, on a droit à quelques extraits de son premier livre qui s'appelle Passion d'automne. Il y a des passages, en effet, qui sont assez gratinés. Mais les ingénieurs de Turing, la société qui a conçu Ada, sont embêtés parce que on ne peut pas corriger ça à la marge sans toucher à toute l'architecture d'Ada, à tout l'imaginaire d'Ada. Donc, tout le travail qui a déjà été fait. Enfin, si on veut gommer ce sens de l'humour, il faut réinitialiser Ada et repartir à zéro.
Et c'est pas bien sûr innocent que cette société s'appelle Turing.
Non, évidemment, Turing c'est un des pères, sinon le père de l'intelligence artificielle que les gens connaissent bien maintenant depuis le film
Imitation
Game et les bandes dessinées, absolument. Personnalité absolument fascinante, qui a été jugée pour homosexualité, qui a été déchue de tous ses titres de gloire, enfin, qui était notamment d'avoir décodé la machine Enigma qu'utilisaient les Allemands pendant la Deuxième Guerre mondiale. Et donc, une personnalité magnifique et tragique. Et donc, typiquement, le nom que prendraient des jeunes ingénieurs de la Silicon Valley pour créer leur société, comme Elon Musk l'a fait avec Tesla, par exemple, en allant ressusciter un illustre inventeur.
Alors, il y a bien sûr une intrigue, parce que pour ce roman, Antoine Bello, vous avez pris tous les codes du polar. On peut dire que, même si c'est édité dans la belle collection blanche prestigieuse de Gallimard, on peut lire Ada avec plaisir, comme pour n'importe quel polar bien ficelé.
Enfin, bien sûr, vous me faites plaisir quand vous dites ça. Moi, c'est de toute façon toujours un de mes buts. Quand j'écris un livre, il faut que les gens aient envie de tourner les pages. Il faut que les gens aient envie de savoir ce qui se passe après. Je suis un lecteur de polar, je suis un lecteur de policier. J'adore la science-fiction, l'anticipation. Donc, vous réunissez tout ça, vous le placez dans un environnement qui est absolument fascinant, qui est la Silicon Valley. Qui fascine et répugne à la fois aux Français. Et d'ailleurs, on voit un petit peu cette perspective, puisque le personnage s'appelle Frank Logan, il est américain, mais il a épousé une Française qu'il a rencontrée à la faveur d'un échange. Elle était venue passer un semestre dans son université. Et cette Française gauchiste, transplantée dans la Silicon Valley, n'arrive pas à se faire à cette explosion de richesse et de créativité autour d'elle. Elle enseigne le français au lycée français de Palo Alto. Elle a des élèves qui roulent dans des voitures qui coûtent 2 ans de son salaire. C'est une râleuse. Et en même temps, Frank Logan, qui ne connaît pas grand-chose à la technologie, ouais, met le doigt, en commençant cette enquête, dans un monde véritablement fascinant. Il se rend compte du pouvoir de la technologie et il se rend compte que les clés du futur sont laissées à des jeunes qui, pour certains, sont assez sont des débrouillards, idéalistes, un peu comme des Steve Wozniak, par exemple, le co-créateur d'Apple. Et puis d'autres sont excessivement cyniques, ne sont là que pour gagner de l'argent, pour trouver des nouveaux marchés, et donc ils voient l'intelligence artificielle uniquement comme un moyen de faire émerger des pans entiers de marché, peu importe les conséquences sur l'emploi, peu importe les conséquences éthiques que ça peut avoir. Et donc, tiens, on a cette technologie incarnée par Ada. Dans quel domaine pouvons-nous la décliner? Et ils font ça très très méthodiquement avec des présentations et des business plans sur Excel, et ça fait froid dans le dos.
Voilà, ça fait froid dans le dos, et c'est pour ça d'ailleurs que j'ai tenu à vous entendre dans cette semaine consacrée à l'Amérique. Vous faites une très belle description de la Silicon Valley, mais reprenons votre personnage principal. Pourquoi avoir joué sur ce décalage? Parce que on peut le dire, hein, Frank Logan, c'est vraiment un flic du 20e siècle. Il est perdu dans la Silicon Valley du 21e siècle, des techies et de l'intelligence artificielle.
Oui, je voulais pas montrer. On peut imaginer, tiens, une intelligence artificielle a disparu, on va confier ça à une équipe de hackers du FBI. Mais là, vous n'avez pas d'élément de décalage, et le décalage est quelque chose qui nourrit la fiction. C'est-à-dire que ce qui était intéressant avec Frank Logan, c'est qu'en effet, il a 55 ans. Il a grandi dans... Faut pas oublier que la Silicon Valley, enfin, avant la Deuxième Guerre mondiale, c'était un verger. C'était un immense verger, le verger de la Californie. Que après la guerre, c'était un site industriel. C'est là que on fabriquait des avions, des missiles. Il y avait une partie de l'industrie de la défense. Et ça ne fait que 35 ans, que 40 ans qu'on a énormément de technologies dans Silicon Valley. Donc, Frank Logan, c'est quelqu'un qui est propriétaire de sa maison à Palo Alto, parce que sa maison, il l'a acheté 30 000 ou 40 000 $ quand il s'est installé. Maintenant, on lui en propose des millions parce qu'il y a des entrepreneurs qui veulent rafler tous les lots de la rue, tout raser et construire des immenses manoirs qui un jour se retrouvent dans le journal à 50 ou 100 millions de dollars. Il y en a pas mal dans cette région.
Mmh. L'argent, et donc, qui engendre l'argent sans qu'il y ait d'industrie, ça vous insistez là-dessus?
Oui, sans qu'il y ait d'industrie. Enfin, moi, on va vers une société de l'information. J'ai pas de nostalgie particulière et j'ai sûrement pas, enfin, Je suis sûrement pas donneur de leçons ou à établir une hiérarchie, à dire l'industrie c'était mieux que les services ou que l'industrie, enfin ou que le logiciel. Mais disons que Frank Logan,
c'est mieux que les spéculations au moins.
Ah oui, ça j'en ai parlé dans un autre livre.
Même dans celui-ci, on va
oui,
y arriver.
Oui, on en parle aussi. Mais Frank Logan, un deuxième élément de décalage, c'est qu'il fait partie en fait d'une unité spéciale de la Bay Area, de la région de San Francisco, qui est chargée de retrouver les personnes disparues. Mmh. Et donc la plupart des cas dont il s'occupe, enfin la totalité des cas dont il s'occupe,
statistiques à l'appui.
Voilà, ce sont des adolescents fugueurs, ce sont des prostituées qui ont été tuées et qu'on retrouve ou qu'on ne retrouve jamais. Sont des professionnels, enfin, de l'industrie du sexe. Donc, lui a l'impression, quand on lui demande de s'occuper de ce cas, il est, mais enfin, vous pouvez
ADA,
vraiment.
ADA, intelligence artificielle.
ADA, une intelligence artificielle. Il dit à sa chef, mais enfin, j'ai des choses plus importantes à faire que de retrouver un logiciel. Il va assez vite comprendre qu'il est très important qu'on retrouve ADA, mais pour d'autres raisons. Il n'y a pas la vie d'une prostituée en jeu, mais il y a des enjeux qui, finalement, touchent peut-être à l'avenir de l'humanité.
Oh, il passe par tous les...
Il passe par tous les stades, en effet.
Voilà, des stades. À un certain moment, il se demande si c'est pas mieux qu'on la retrouve jamais, cette monstruosité, cette intelligence artificielle.
Absolument. Absolument. Et puis, il passe, voilà, il y a encore d'autres stades et il y a un moment où il se convainc qu'il est urgent que lui, Frank Logan, parce qu'il se trouve à cet endroit, à ce moment, fasse quelque chose pour lequel l'humanité le remerciera un jour.
Alors, vous ne décrivez jamais Antoine Bello, mais Frank Logan est un flic de gauche, hein.
Il est aussi à gauche qu'on peut être aux États-Unis.
Bon, ouais. Ouais, il est très Bernie Sanders. Ça.
Ouais, ouais.
Hein, il se permet même de dire que Starbucks, pour lui, c'est le symbole du capitalisme triomphant, sauvage.
Oui, oui. Ouais. Il dit que c'était mignon tant qu'il y en avait 15 ou 20, maintenant qu'il y en a 20 000, voilà. Howard Schultz aurait dû s'arrêter beaucoup plus tôt.
C'est-à-dire que vous avez vous-même changé d'opinion politique, Antoine
Bello ?
Non,
pas du tout. Pas du tout. C'est drôle. J'ai des amis qui lisent ça, qui disent, mais Starbucks, il me semblait que t'aimais bien Starbucks. Je dis oui, j'y écris 2 ou 3 heures par jour. Il dit, mais t'en fais un portrait, là, dans ton livre. Je dis, mais c'est mon personnage. Ça n'a rien à voir. Mais bien sûr que j'ai cette fibre. On peut pas vivre aux États-Unis, et ne pas ressentir tellement d'excès du capitalisme, de la cette cupidité ambiante, omniprésente, et puis parfois ce côté dans la Silicon Valley, cet angélisme de dire ah, on travaille à la technologie, on travaille à faire un monde meilleur. Non les gars, vous travaillez aussi beaucoup à vous faire des milliards de dollars. Et parfois, vous faites certaines de vos inventions sont extrêmement précieuses, d'autres sont à oublier. Le temps se chargera de les balayer, d'ailleurs.
Et à faire augmenter les prix du loyer et à expulser tous les Mexicains qui continuent à vivre à San Francisco. Quel regard portez-vous sur l'Amérique d'aujourd'hui, Antoine Bello, vous qui êtes tout à la fois français et américain ?
Ben, si je continue, moi ça fait 14 ans que j'y habite, sur la côte Est, près de New York. J'ai un fils maintenant qui travaille dans la Silicon Valley, donc je m'y rends régulièrement et je me tiens bien au courant de ce qui se passe là-bas. Mmh. Si j'y suis encore, c'est que pour moi, le pour l'emporte sur le mauvais. Je vois le mauvais, mais je trouve qu'il continue à y avoir, malgré cette campagne présidentielle absolument affreuse et totalement sans substance.
Pourquoi vous dites ça? Parce que vous n'êtes satisfait ni de la Trump, ça, on peut vous comprendre, ni d'Hillary Clinton ou...
Non, je suis pas satisfait. Non, ce qui est dommage, c'est que à partir du moment où vous avez un candidat comme Trump, ça phagocyte complètement la campagne. Hillary Clinton, en ce moment, n'a qu'à se taire. Enfin, et d'ailleurs, elle est beaucoup plus défensive là depuis quelques semaines parce qu'elle a compris qu'elle n'avait pas besoin de faire davantage. Trump va se tuer lui-même. Mais oui, en plus, la personnalité d'Hillary Clinton, qui a énormément de casseroles au cul et qui n'a pas été toujours d'une grande sincérité avec l'Amérique.
Mais quelle conclusion tirez-vous de ça? Le modèle dit... démocratique
le modèle. Enfin, j'ai un gros problème avec le mode de financement de la vie politique américaine. Mm-hmm. Je crois malheureusement, j'en ai aussi parlé dans un roman américain. Je pense que c'est foncièrement, le modèle est foncièrement vicié. Hillary Clinton va probablement dépenser 2 milliards de dollars pour son élection. Obama en avait dépensé 1 milliard. Il y a 15 ans, dépensait 500 millions. Donc voilà, on double tous les deux cycles électoraux. Il y a eu une décision séminale de la Cour suprême américaine qui a permis aux lobbies et aux entreprises de financer la vie politique sans limite, sous prétexte qu'elles avaient un droit d'expression et elles ont le droit d'intervenir dans le débat démocratique. Le résultat, c'est qu'il n'y a plus aucun garde-fou. Et on peut imaginer un jour qu'il y ait 50 milliards de dollars sur la tête de chaque candidat, parce que chaque business qui fait partie de ce camp-là a fait le calcul que c'est ce qui pouvait se permettre d'investir pour avoir un retour.
Et quand Bernie Sanders exprime ce que vous dites, il est très entendu, mais il a aucune chance de pouvoir être un jour élu ou quelqu'un de cette
rang. Si, je pense. Peut-être qu'il aurait eu... Enfin, il se trouve qu'il est parti, il avait 400 super délégués dans la vue, c'est-à-dire qu'il n'a pas du tout courtisé l'appareil démocratique et il est allé voir uniquement, enfin, il a tapé uniquement, enfin, d'abord du côté des jeunes et de la population. Et donc, au nombre de délégués, il faisait jeu égal avec Hillary Clinton. Par contre, Hillary Clinton avait verrouillé, il y avait 400, je crois, super délégués du Parti démocrate, elle les avait les 400 pour elle. Donc, il n'avait déjà, à ce stade, il n'avait quasiment plus aucune chance. Peut-être que s'il avait été un peu plus roué ou mieux conseillé, il aurait réussi à empêcher ça. Il n'est pas impossible qu'on y arrive. Et on a eu des candidats, l'élection de Bill Clinton en 92 avait été quand même une très très grande surprise, un gouverneur de l'Arkansas. Il avait bénéficié d'une triangulaire. Il y a cet aspect aussi qui peut toujours jouer dans une élection américaine. Peut-être que la prochaine fois, ça sera différent. Et puis, on va pas cracher sur un système qui, il y a 8 ans, a élu un jeune gouverneur noir. Donc, c'est à l'image. Mes sentiments vers les États-Unis sont vraiment à cette image. Voilà, c'est un pays qui est capable du meilleur comme du pire. Dans le pire, c'est lui le meilleur, comme disait Coluche. Mais dans le meilleur, c'est aussi un peu lui le meilleur. C'est un petit peu ce que je pense. C'est un pays d'extrême. Et ce qui se passe, l'énergie qu'il y a dans ce pays, cette ferveur, cet engouement, cet optimisme qu'on peut ressentir.
Moi, et ça, vous le dites parce que vous comparez à la France, par exemple?
Je le dis parce que je compare à ce que je connais. Donc, évidemment, par rapport à la France. Par rapport à la France, il n'y a pas photo. C'est quand même très, très net. Mais même par rapport à d'autres pays où je connais des gens, où je voyage, pour moi, les États-Unis restent un phare. Beacon on the hill, comme ils disent.
Donc, vous allez voter, Antoine Bello?
Je vais probablement voter, oui.
Revenons à Ada. Alors, en revanche, dans Ada, il y a beaucoup plus de références littéraires françaises qu'américaines, là.
Bah oui, la grande littérature reste quand même française. Je lis beaucoup, c'est malheureux à dire, mais je lis beaucoup pour me documenter pour les livres que j'écris. Quand j'écris un livre sur l'intelligence artificielle, j'ai beau en connaître déjà un petit peu, je ne me sens pas capable, je n'ai pas envie de me lancer avant d'avoir lu d'autres romans sur l'intelligence artificielle, vu d'autres films sur l'intelligence artificielle, et puis lu des livres d'anticipation, voire des livres de neurosciences qui expliquent où tout cela va. Donc ça me prend pas mal. Ce qui est nouveau aussi depuis 9 ans, depuis 7 ans, comme vous dites, c'est les séries télé qui ont quand même changé énormément la donne. C'est-à-dire qu'il y a maintenant tellement de séries télé qu'on peut se permettre d'être très difficile. On peut trouver des choses exactement dans son domaine d'intérêt. Moi, par exemple, j'adore la guerre froide, j'adore l'espionnage, j'aime beaucoup les États-Unis. J'aime bien les périodes un peu rétro. Ben, je regarde
The Americans,
que j'adore cette série. Elle est tellement intelligente, tellement bien faite. Les personnages sont humains. Le point de départ est complètement fou. Les rebondissements sont intéressants. C'est les années Reagan aux États-Unis. Voilà. Et ça, c'est peut-être quelque chose que j'aurais cherché encore il y a 10 ans dans un livre, ou dans la trilogie des livres d'espionnage de Len Deaton, par exemple, que j'adore, mais qu'aujourd'hui, on trouve plus spontanément dans les séries télé.
Vous êtes chez vous, aux États-Unis, et les deux téléphones sonnent en même temps. Le premier, c'est Gallimard. Le second, c'est HBO. Vous décrochez HBO en premier ou Gallimard ?
Non, non, mais toujours Gallimard.
Ah !
Toujours Gallimard.
Et bien sûr, je vous crois, ce matin.
Non, 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 mais j'ai un répondeur.
Chez Gallimard est sorti le dernier roman d'Antoine Mello, Ada. Merci beaucoup d'être venu nous en parler ce matin.
Merci, Toufik.